Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Allez Philippe Rossi, c'est parti mon kiki, on va parler de quoi aujourd'hui?
Et du code du travail qui pèse très lourd.
Vous savez combien, indigeste,
combien pèse le code du travail, mais vraiment le vrai poids, vous le connaissez?
Allez, on va dire 5 kilos?
Non, quand même pas, 1 kilo et demi, mais c'est déjà beaucoup. Bon, il faisait 500 grammes en 1978.
Ah bah voyez, oui, il y a de plus en plus de normes.
Hein. C'est de législation, de loi, c'est l'enfer. Exactement. Oui, on va en parler, les vraies voies de l'emploi, donc jusqu'à 20h, consacrées ce soir au code du travail. Alors c'était en 2014, pardon, excusez-moi.
Vous êtes bourré?
Oui, bah oui, on n'a pas bu, mais je suis quand même bourré. C'était en 2014, Jérôme Laverny, rappelez-vous, François Bayrou, sur le plateau de France 2, avait placé côte à côte l'énorme code du travail français et le mince code du travail suisse. Et oui, 1670 pages pour notre code du travail, seulement 500 pages pour le code suisse. Mais bon, ce n'est pas tout, puisque François Bayrou n'était pas le seul à pester contre notre trop lourd code du travail. François Hollande également estimait, par exemple, que notre législation du travail était illisible. Entre 2003 et 2013, le code du travail a grossi de 3,4%. Et je le disais à l'instant, mais je vais le répéter. En 1978, le code du travail pesait 500 grammes. Il fait aujourd'hui 1,5 kg. Trop de lois tue la loi. Ça, c'est une phrase de Jacques Chirac, il y a 20 ans. D'où notre question ce soir et notre débat. Le code du travail pèse-t-il trop lourd? Est-ce un handicap, donc surtout pour les patrons de PME, TPE, petites, moyennes entreprises? Oui ou non, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On vous attend évidemment au 0826 300 300. Je vais vous présenter tout de suite nos vraies voix de l'emploi ce soir. Jérôme Laverny, donc, comme chaque mardi, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Philippe.
Et Emmanuel Lafont, directeur du cabinet de recrutement Sparte RH. Bonsoir Emmanuel. Dans quelques instants, tiens, nous serons avec l'avocat Pierre Farge. Et puis un petit patron, deux petits patrons même, qui témoigneront sur le sujet. Le code du travail, trop lourd, pas trop lourd. Ils nous diront donc, et ils nous diront ce qu'ils en pensent. Première question, Jérôme Laverny. La France championne de la législation, finalement, on fait des lois sans cesse. Des lois très complexes souvent.
Même s'il ne faut pas faire l'économie d'une très bonne nouvelle hein, en termes de poids, puisqu'il est question de poids du code du travail. Et c'est bien d'un point symbolique hein, dont on parle, dont il faudra parler. Pas seulement du poids du reste et du nombre de lois, de leur profusion, mais également de l'application dans la vie pratique. La vie pratique à la fois des entreprises et des salariés. Mais donc, je disais à l'instant, il ne faut pas faire l'économie d'une bonne nouvelle. Ce poids s'est considérablement allégé, puisque le gouvernement a mis en place un code de travail numérique. Et quand une initiative est excellente, il faut savoir aussi donc la souligner et s'en féliciter. Parce que, de fait, sa consultation est très interactive, très pratique. Et donc, j'invite les auditeurs, tant entreprises, encore une fois, que salariés, à s'y référer. Ils auront la bonne surprise de pouvoir avoir pas mal de réponses à pas mal de questions, même si pour l'instant, c'est en démarrage et c'est sans doute pas exhaustif, comme on aura l'occasion de le dire.
Et puis j'imagine qu'il doit avoir, je pense, hein, je ne sais pas, une petite barre de recherche peut-être pour rechercher une loi.
Fait.
Voilà,
faut
franchement, pas parcourir les pages du code du travail.
C'est vraiment très bien fait. Ouais.
Emmanuel Lafont, même question qu'à Jérôme Laverny. Pour vous, le code du travail, c'est trop de lois tue la loi, comme disait Jacques Chirac il y a quelques années.
Alors, non seulement trop de lois tue la loi, mais le code du travail, c'est quelque chose de très bien. Le code du travail, c'est quand même quelque chose qui va organiser les relations entre un salarié et son employeur, ça faut quand même le signaler. Donc c'est vrai que ça a eu tendance à prendre un petit peu de poids, c'est un beau bébé maintenant d'un kilo 5. Mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire que le code du travail c'est juste une brique. Au-dessus vous avez des conventions collectives et le problème c'est que sur la nouvelle version numérique, le code du travail prendrait en compte à peu près une cinquantaine de conventions collectives. C'est cool, c'est une bonne nouvelle, il en reste encore 720 à saisir.
Ah oui.
Voilà, juste comme ça pour savoir. Donc qu'est-ce que c'est que la convention collective? C'est comme si le code du travail c'était une règle du jeu et la convention collective c'est une sur-règle du jeu qui vient s'appliquer par-dessus, complexifier un petit peu le bazar. Si
par exemple, les journalistes, bon, on a notre propre convention collective. Voilà, les métiers du bâtiment, j'imagine, pareil. Les secteurs, les sous-secteurs, effectivement,
exactement.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup. Sachant que, en plus, hein, si jamais vous avez envie de vous lancer sur le droit du travail, vous allez avoir donc du coup le code du travail, la convention collective qui s'applique à votre catégorie d'entreprise. Et puis derrière, si jamais d'une place vous allez devant les tribunaux, donc les tribunaux de prud'homme, là par contre, ça va être un petit peu différent. différents. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des tendances des tribunaux qui vont apprécier plus ou moins différemment, suivant le moment, suivant aussi le tribunal, puisqu'on a ces soucis-là, ce qui est marqué dans le code et comment est-ce que ça va s'appliquer au quotidien pour les salariés.
Allez-y, Jérôme Laverny.
Oui, alors, indépendamment des lois, de la profusion des lois, il faudra aussi qu'on fasse un sort à ce sacro-saint principe de précaution qui régit tant notre vie quotidienne, et notamment celle des entreprises et celle des salariés, sur le registre de l'emploi, de la formation, du développement économique, et on entend par développement économique la création et le développement des entreprises. Il faudra qu'on voit dans quelle mesure, au-delà de l'aspect juridique et judiciaire, parce qu'il va falloir aussi qu'on en parle, comment une personne va pouvoir se défendre, un salarié ou une entreprise, du reste de la même façon, comment ce principe de précaution, à mon sens, nuit, au-delà du nombre de lois, à la vie quotidienne des entreprises.
Parce que j'imagine qu'il y a des lois contradictoires. On peut très bien donner raison à un patron avec un code de loi, avec une loi. On peut donner aussi tort à ce patron avec une autre loi.
S'il y a bien une chose qui est sûre, lorsqu'on fait une procédure au prud'homme, c'est qu'on n'est pas sûr de gagner. Dans les deux cas, l'incertitude est reine. C'est un vrai problème aujourd'hui, c'est l'interprétation du texte et l'application de ce texte, puisque faut pas oublier que c'est une relation entre deux personnes et que par définition, on va devoir adapter quelque chose de strict à quelque chose qui n'est
pas. Vous avez raison, Philippe, Jérôme Laverny. Il y a des lois contradictoires et plus pernicieux encore, il y a les lois d'affichage. Et la loi par excellence d'affichage, ou plus ou moins l'adage par excellence d'affichage, que moi j'ai toujours trouvé d'une stupidité abyssale, c'est évidemment, et ça c'est très important en droit du travail, nul n'est censé ignorer la loi. Alors oui, effectivement, ce site est bien fait. Effectivement, les auditeurs, tant employés qu'employeurs, pourront y consulter tout un tas de choses qui existent dans le code du travail. Mais qu'en est-il de son application? Qu'en est-il de son maniement dans la vie quotidienne? Je décrypte, mon cher Abia. Tout un tas de gouvernements se sont succédés, et notamment, par exemple, il ne s'agit pas d'aspect juridique, mais néanmoins, ça s'en rapproche. On pondu des contrats aidés. On en a parlé ces derniers temps et ces derniers jours dans les résultats des chiffres du chômage. En oubliant juste au passage une donnée fondamentale, et on va sans doute avoir l'opportunité, là aussi, d'en parler avec nos deux employeurs dans la deuxième partie de l'émission. En oubliant juste au passage une donnée qui est fondamentale, une petite ou une moyenne entreprise, parfois, n'a pas de DRH. Et ce contrat aidé, quand bien même d'une profondeur abyssale, qu'en est-il de sa gestion réelle, de la capacité de gestion réelle des entreprises? Est-ce qu'une entreprise, parce qu'elle n'aura pas le DRH, va avoir le temps, la capacité de rentrer dans les circonvolutions de ce contrat aidé? Et donc, qu'est-ce que l'on voit dans la réalité? Ah oui, le contrat aidé en question a été pondu, mais il n'est pas appliqué, parce que les entreprises n'ont pas le temps. Qu'un DRH d'une toute petite entreprise, c'est un expert comptable. Qu'un expert comptable, il n'est pas gratuit. Et que lui-même n'a pas forcément le temps de se plonger dans ce genre de méandre. Donc, vous voyez bien, une loi, enfin en tout cas une décision a été pondue, mais dans son application, elle ne donne aucun résultat, et en tout cas pas les fruits escomptés.
Emmanuel Lafon.
Justement, je rebondis sur ce que tu disais. Faut pas oublier une chose, c'est que dès le premier salarié, on se prend toutes les obligations d'un employeur à part entière. Et donc, être entrepreneur aujourd'hui et monter sa boîte, c'est facile. Vous allez juste à la CCI ou à la Chambre des métiers, vous remplissez le M0, et puis ça y est, vous êtes patron. Mais entre-temps, vous n'avez pas à manger tout le code du commerce, vous n'avez pas à manger tout le code du travail, et il vous reste aussi le code fiscal, bien entendu, à pas oublier. Et l'expert comptable, il est là justement pour vous aider à avoir une bonne comptabilité. Mais il n'a pas forcément des notions suffisante en RH. C'est un autre métier, des RH. Et un DRH, on peut l'avoir à temps plein à peu près, aller au seuil de 100-120 salariés suivant l'évolution ou la forme de votre entreprise. C'est pour ça que nous, on a développé le temps partagé.
C'est-à-dire qu'un petit patron qui voudrait recruter par exemple 2-3 personnes en CDI, il va sûrement devoir faire appel à un spécialiste du code du travail pour lui dire dans quelles conditions embaucher, et il va devoir payer, il va devoir débourser.
Et en fait, qu'est-ce qu'on voit se passer aujourd'hui dans les petites entreprises, notamment absence de DRH, précaution, on voit tout un tas d'entreprises, et d'ailleurs pas que petites, on pourrait étendre, y compris à des grands groupes, procéder de la manière suivante: au moment de recruter, le faire sous la forme d'un contrat d'intérim ou d'un CDD comme antichambre d'un recrutement plus pérenne, plus durable, ce qui n'a aucune cohérence, valeur juridique. C'est complètement stupide de procéder de la sorte. Mais par simplicité, parce qu'une entreprise, c'est un corps qui n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'elle aille vite, qu'elle réponde à un marché qu'elle vient tout d'un coup de remporter, à une absence d'un salarié et qu'il faut remplacer la semaine suivante. Il faut prendre en considération ces données. Parce que alors là, pour le coup, nul n'est censé ignorer la loi, ça devient effectivement complètement débile. Et donc, qu'est-ce que fait un chef d'entreprise ? C'est intérim et c'est CDD pour pallier. Alors la loi, elle existe. Et puis, nul n'est censé ignorer la loi. Très bien. Quand bien même la connaîtrions-nous, qu'en est-il de son application en conseil de prud'homme ? Est-ce que réellement un salarié a la possibilité de se défendre dans un certain nombre de cas ? À savoir, du temps que suppose une procédure. Et puis surtout, du coût que suppose une procédure. Et donc, on voit tout un tas de personnes rencontrant un certain nombre de difficultés. Et étant confronté au fait que le temps que va leur prendre la procédure et surtout le coût en termes de défense fait qu'ils vont devoir renoncer à faire valoir leurs droits.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants. La question que l'on vous pose ce soir, le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Résultat sur le compte Twitter de Sud Radio. Et pour le moment, on vient de débuter l'émission, c'est un grand oui. Hein. Oui à 63%. Vous continuez de voter, évidemment. Et puis, on vous attend. Donnez-nous votre avis. 0826-300-300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. On vous attend nombreux. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Allez, retour des vraies voix de l'emploi ce soir avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Emmanuel Lafont qui est avec nous, directeur du cabinet de recrutement Spart RH. Notre débat ce soir et cette question que l'on se pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Oui ou non ? Vous votez donc sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous attend également au 0826-300-300. Je vous propose d'accueillir tout de suite Pierre Farge. Bonsoir Pierre Farge.
Bonsoir à tous.
Pierre
bonsoir,
Farge,
messieurs.
Bonsoir, avocat au barreau de Paris. Je vous pose donc la question brute que l'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Selon vous, le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Il est passé de 500 grammes à 1,5 kg en une trentaine d'années.
Bien évidemment, messieurs. Moi, l'éclairage que je peux peut-être vous apporter ce soir est pour rebondir sur l'observation qui a été faite tout à l'heure. C'est un éclairage de terrain, un éclairage judiciaire. Monsieur tout à l'heure soulignait le temps d'une procédure prud'homale. On a la France, le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné il y a quelques mois le conseil de prud'homme de Bobigny et de Nanterre pour déni de justice parce qu'il y avait des délais absolument stratosphériques.
Trop long.
Pour vous donner une idée, la moyenne nationale de traitement d'un contentieux prud'homal est à 11 mois. Bobigny et Nanterre, c'était respectivement 22 et 23 mois. Sans compter que quand vous allez en départage, on rajoute 6 mois. Et en appel, vous rallongez la procédure de 2 ans. Autrement dit, vous avez une procédure judiciaire qui dure près de 5 ans. 5 ans. Moi, j'ai un client qui s'est carrément suicidé en voyant l'inertie de la justice française et qui avait ce sentiment que la justice ne serait jamais rendue dans son cas. Donc, ce que je m'efforce de faire à longueur d'article, c'est d'essayer de comprendre comment on pourrait réduire ces délais procéduraux devant la juridiction prud'homale.
Pourquoi autant de délais, Pierre Farge ?
Alors, d'abord, selon moi, on n'a pas des magistrats professionnels. Les conseillers prud'homaux sont des juges consulaires qui sont élus par leurs pairs, donc soit par des employeurs, soit par des employés. Néanmoins, ils disposent exactement des mêmes prérogatives qu'un magistrat professionnel, c'est-à-dire que leurs prérogatives sont identiques et que la décision a la même force contraignante, elle a la même valeur. Pourtant, ces conseillers prud'homaux, ils ont une formation de seulement quelques heures avant d'entrer en fonction, alors que, comme vous savez, les magistrats professionnels sortent de l'ENM et ont 8 ans de formation. Comment on peut donc accorder la même force contraignante et le même crédit à un jugement par des personnes qui ont fait tantôt, dans un cas, 8 ans d'études, les autres, quelques heures. À ce compte-là, si on estime que la justice est rendue de la même façon, on supprime l'ENM. C'est plus simple. Donc, selon moi, il y a des magistrats qui sont pleins de bonne volonté, qui sont intelligents, mais qui n'ont pas la formation adéquate pour rendre un jugement en droit. Et c'est la raison pour laquelle il y a cet aléa judiciaire qui est très important et pour laquelle on se retrouve en appel. Et la procédure d'appel est si longue parce qu'on a une chambre sociale qui est débordée.
Jérôme Laverny, sur ce que vient de dire Pierre Farge déjà, et puis je vous redonnerai la parole, Pierre.
Ce que dit Maître Farge sur le constat, Pierre Farge, est complètement fondamental et dit combien le droit, l'existence du droit ne se suffit pas à lui-même. car en réalité, dans son application pratique, le délai, le temps de délai d'une audience, il dit combien une personne, quoique ayant souffert un préjudice, va se retrouver dans cette situation parfois paradoxale de devoir renoncer, raisonnablement à faire valoir ses droits. Je décrypte. Il m'est moi-même arrivé personnellement de conseiller à une personne, quoique ayant, encore une fois, le sentiment d'avoir subi un préjudice. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se substituer à un tribunal. Mais quoique ayant ce sentiment-là, il m'est arrivé de conseiller à cette personne d'essayer, et en tout cas de l'appuyer, pour négocier une rupture conventionnelle. Mmh. En somme, pour gagner du temps, parce que c'est très stressant pour une personne. C'est fabuleusement... psychologiquement, c'est un traumatisme de se savoir dans l'injustice potentielle. Et donc, là, encore une fois, nul n'est censé ignorer la loi, étayer le code du travail de tout un tas de dispositifs, si dans la réalité, dans son application pratique, il n'en est pas... cela n'est pas possible. Pour tous les acteurs, que ce soit des avocats ou des juges, c'est un peu tiré par les cheveux.
Emmanuel Lafond, votre sentiment sur ces délais d'attente extrêmement longs?
C'est insupportable et faut savoir que c'est un vrai traumatisme.
Pour le salarié, surtout.
Non, moi je dirais pas que pour le salarié, parce que dès l'instant où on s'attache au petit patron, comme on dit, ça peut être aussi très usant pour eux, et le sentiment d'injustice en fait est pire que le vécu même de ce qui s'est passé avant, le traumatisme soit de la rupture à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, ou le problème de la démarche du salarié que l'employeur trouve injuste, ou à l'inverse. Faut savoir que c'est vraiment un traumatisme, et tous les patrons qu'on accompagne aujourd'hui, tous les entrepreneurs, tous les start-upers, à chaque fois, c'est une usure permanente. C'est-à-dire que ça commence à prendre un petit peu de place, et puis plus ça prend la place, à la fin, ils ne parlent que de ça, et il ne faut pas se laisser bouffer par ça, il y a plein d'autres choses à vivre.
Maître Farge a souligné aussi un autre aspect, celui de la formation des juges, en l'occurrence dans le Conseil des Prud'hommes, des juges consulaires. Alors, avec la meilleure volonté du monde, cette distorsion entre un juge réellement formé et quelqu'un qui, en quelques minutes ou quelques heures, va devoir se confronter parfois à un dossier très lourd, très étayé, très détaillé, dit combien en réalité, son traitement va être très aléatoire. Et donc, ce côté aléatoire fait que, de l'autre côté de la barrière, on voit aussi certains salariés, il faut dire les choses aussi concrètement, se jouer et en tout cas tenter leur chance, comme une sorte de loterie, et d'un tribunal à un autre, subir cette loterie.
Pierre Farge, est-ce que c'est ce qui explique peut-être le fait que quand on va au prud'homme, c'est ce qu'on dit en tout cas, c'est souvent le salarié qui gagne?
Non.
Ça c'est faux, c'est un cliché ça.
On défend beaucoup d'employeurs. Et véritablement, il n'y a pas de règle. Mais il y a un aléa judiciaire qui est très important et qui me permet de rebondir là-dessus pour vous dire que pour réduire les délais procéduraux devant le Conseil des Prud'hommes, il serait selon moi déterminant que la représentation de l'avocat soit obligatoire, puisque ce sont les avocats d'une partie ou d'une autre qui vont souffler un raisonnement juridique appuyé de jurisprudence et que le conseiller prud'homal va suivre ou non. Mais aujourd'hui, on a donc des magistrats qui ne sont pas professionnels. On a parfois des salariés ou des employeurs qui ne sont pas représentés par un avocat. Et le magistrat qui est non professionnel doit aller, selon les dires de l'une ou l'autre partie, si elles ne sont pas accompagnées d'un avocat, lui-même raisonner juridiquement. Donc, on perd énormément de temps et avec une juridiction prud'homale qui aimerait bien parfois qu'on lui dicte sa décision, vous voyez.
Alors beaucoup de commentaires sur le compte Twitter de Sud Radio, je vous en lis quelques-uns. Alors tous, je vous rappelle le score, à 63% trouvent que le code du travail pèse trop lourd, et c'est notre question ce soir. Alouax, tiens, qui nous dit: une grande partie de ce gros code du travail est composé de jurisprudence suite à des jugements ainsi que les textes spécifiques par branche. C'est ce que vous nous disiez, Emmanuel Lafond. Chaque branche a un code du travail condensé par rapport aux articles spécifiques à celle-ci, donc peut-être qu'il faudrait un petit peu s'arrêter là. Et puis Jackie, qui nous dit: en étudiant bien cette petite usine à gaz, on s'aperçoit qu'une seule page devrait suffire avec un seul article. Hélas, le chef a toujours raison. Voilà, je voulais vous lire son commentaire.
Alors, merci.
Jérôme Laverny. Pierre Farge, allez-y.
Un dernier point, j'en ai pour 10 secondes. Il y a un autre élément qui est intervenu dans cette procédure prud'homale qui fait perdre énormément de temps, et la supprimer permettrait de réduire significativement les délais procéduraux. On nous oblige depuis quelques années à passer nécessairement devant ce qu'on appelle un bureau de conciliation, avant de plaider le dossier au fond, devant ce qu'on appelle le bureau de jugement. Sauf que devant toutes les autres juridictions françaises, Cette conciliation, elle se fait de façon informelle par les parties et avant de saisir la juridiction, on doit justifier d'avoir envoyé un recommandé, une lettre d'avocat en disant qu'on souhaiterait se transiger. Aujourd'hui, on a une juridiction qui convoque devant le bureau de conciliation, donc qui réunit un tribunal juste pour constater et entériner qu'il n'y a pas de conciliation possible. Alors qu'on pourrait arriver juste après l'assignation directement devant le bureau de jugement. Donc on perd.
C'est une étape supplémentaire.
Un an supplémentaire en sachant que les chiffres ont démontré déjà depuis 2 ans qu'il y a seulement 7% des dossiers qui arrive effectivement à une conciliation. Donc ce mécanisme qui a à peu près 5 ans ne sert absolument à rien. Et ça continue devant toutes les juridictions de France et de Navarre à faire perdre du temps aux justiciables.
Jérôme Lavernie.
S'agissant de ce temps, pour reprendre, rebondir sur les propos de Maître Farge, on voit donc parfois des gens prolonger des arrêts maladie parce que n'ayant pas eu la possibilité de résoudre un contentieux avec un employeur, ce qui est une aberration, mais se retrouvant dans cette situation un petit peu bancale. Deuxième chose, on a parlé du temps. Mais il faut parler aussi du coût d'une procédure. Et moi, j'aime l'idée du contrat dans la vie quotidienne, dans la vie économique, dans la vie sociale, et sans parodier le propos de Rousseau. Mais tout de même, il faut que de part et d'autre d'une situation, chacun ait intérêt. Or, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit des gens ne pas pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. On voit des gens ne pas pouvoir prendre en charge un coût financier, donc, d'une procédure. Mais de l'autre côté de la barrière, on voit des avocats, Maître Farge, je le disais à l'instant dans les procédures qu'il décrivait, pour lesquelles un dossier va supposer un travail véritablement très chronophage et à qui on ne peut pas jeter la pierre d'une certaine tarification. Donc, plus personne n'a d'intérêt, en fait, à faire valoir le droit. Il a beau exister, ce droit. Eh bien, d'un point de vue concret, pragmatique, matériel, je dirais même logistique, il ne peut pas être mis en application. Et moi, je militerais bien volontiers pour qu'il y ait une assurance assortie à un contrat de travail permettant demain, s'il y a contentieux entre l'une ou l'autre partie, employeur et employé, qu'on puisse avoir la garantie, au-delà d'une protection juridique, d'une assurance, eh bien, de pouvoir prendre en charge de façon décente pour tout le monde, côté salarié et côté avocat, professionnel de la justice, eh bien, une procédure à la fois courte et décente pour tout le monde.
Merci à vous, hein, Pierre Farge, vous qui êtes sur le terrain, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Beaucoup de votes sur le compte Twitter de Sud Radio. Le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Un petit point sur les votes et toujours 63 de nos auditeurs qui répondent par la positive. Continuez de voter, Twitter, Facebook, et puis on va se retrouver dans quelques instants avec Jérôme Lavernie et Emmanuel Lafond, nos vraies voix de l'emploi ce soir. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Allez, bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Ça, c'est la question que l'on vous pose ce soir. C'est notre débat. Tenez quelques chiffres pour commencer. Le code du travail, c'est à peu près 1650 pages, 1,5 kg, alors qu'il ne pesait que 500 petits grammes en 1978. 500 grammes, c'est le poids de l'actuel code du travail suisse. Entre 2003 et 2013, le code du travail a grossi de 3,4%. Le code du travail pèse-t-il trop lourd ? Oui ou non ? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis, évidemment, on vous attend au 0826 300 300 pour en débattre tous ensemble avec nos vraies voix de l'emploi qui sont là ce soir. Jérôme Lavernie, directeur du réseau national Mission Emploi, et Emmanuel Lafond, directeur du cabinet de recrutement Sparte RH. Et puis, nous accueillons tout de suite Milos Milovic. Milos Milovic, patron d'une petite entreprise de bâtiment. Bonsoir, mon cher Milos.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors j'imagine que vous, Milos Milovic, effectivement, pour vous, le code du travail pèse trop lourd, j'imagine.
Oui, effectivement. Je suis dirigeant d'une petite entreprise de 4 salariés. Donc on a la nécessité d'aller sur le terrain aussi. Et qui dit être sur le terrain, dit devoir lever le pied sur la partie administrative et la gestion. Et sauf qu'aujourd'hui, on doit être expert, je dirais, dans tous les secteurs, à minima, expert comptable, avocat et RH. Sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, concrètement, d'avoir notre expertise dans tous ces domaines-là pour éviter ne serait-ce qu'une coquille dans un contrat qu'on aurait rédigé.
Vous avez combien de salariés, Milos ?
4.
4.
4 salariés. En quel type de contrat ? CDD, peut-être ?
Alors non, là actuellement ils sont en CDI parce que j'ai réussi à trouver des personnes très bien. Mais j'ai besoin d'embaucher plus, sauf que j'ai peur d'embaucher, on va dire, concrètement.
Pourquoi ? Parce que vous vous dites, si jamais je dois m'en séparer, par exemple, ça va être compliqué, ça va coûter de l'argent, peut-être des frais d'avocat aussi pour se renseigner.
La principale cause, en fait, c'est qu'autour de moi, j'entends des gens qui me disent que oui, j'ai embauché une personne, elle a été exemplaire pendant 3 mois, et après, plus rien. Mmh. Une fois la période d'essai passée, plus rien. Sauf que pour une petite entreprise, une personne qui ne fait plus rien au bout de 3 mois, c'est de la perte. Et on ne peut pas se permettre une perte. Donc là, encore un problème avec la loi.
Pour l'instant, ça s'est bien passé, si je comprends bien, avec vos 4 salariés actuels.
Oui, effectivement, dont 2 de la famille.
Jérôme Laverny.
Alors, ce qui se traduit, je reviens à ce que je disais précédemment, ce qui se traduit dans les faits par cette pratique dans un certain nombre d'entreprises inspiré d'une certaine précaution, d'une certaine surtout angoisse par rapport au recrutement, à recourir à l'intérim ou au CDD comme une antichambre d'un recrutement plus pérenne. Et ce qui n'a pas de logique, ni juridique, ni comptable, mais M. Milojic le disait à l'instant de façon fondamentale, c'est indispensable de le prendre en considération. Et les pouvoirs publics ne le font pas assez. Un petit patron d'entreprise, un patron d'une petite entreprise plutôt, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui fait son secrétariat le soir sur le canapé parfois, et qui a déjà la première préoccupation d'assurer le terrain, comme le disait Milos Milojic. Donc il faut le prendre en considération. Ça.
Emmanuel Lafont, donc vous avez fondé un cabinet de recrutement qui s'appelle SparterH, et pas que. Comment ça se passe justement ? Ce sont des patrons qui font appel à vous ?
Oui. Alors les patrons, ils vont faire appel à nous sur plusieurs sujets. Le premier, c'est que, c'est ce que j'enseigne à HEC, c'est être patron, c'est quoi ? C'est 3 vies, 5 métiers. Cet équilibre, c'est 3 vies parce qu'on a une vie professionnelle, on a une vie intime vis-à-vis de soi-même, et on a une vie familiale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ramène donc les
problèmes du travail à la maison,
à la maison. Sinon, on n'a plus de bulle. Donc, faire la compta sur le canapé, je suis pas d'accord. Il ne faut pas le faire. C'est une mauvaise idée. C'est 5 métiers parce que l'air de rien l'intervenant elle a bien souligné, c'est qu'il faut être expert comptable, il faut être DRH, il faut être juriste, et puis il faut connaître son métier, puis en même temps, il faut être commercial. Ça fait 5 métiers et il faut être bon dans les 5. Si vous n'êtes pas bon dans l'un, et ben vous risquez de vous planter. Et ça devient vraiment compliqué. Et donc, du coup, nous, on estime que quand vous recrutez quelqu'un, en fait, ce que vous faites, c'est vous jeter un an de salaire chargé, mais pas chargé juste salarial, faut charger aussi le patronal. C'est ce que vous lancez en l'air en espérant récupérer quelque chose à la fin. C'est vraiment le risque que vous prenez. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises préfèrent se passer de compétences alors qu'elles en ont besoin pour se développer, plutôt que prendre le risque d'un mauvais recrutement.
Tout ce que vient de décrire Milos Milojic, vous le ressentez, vous ?
Au quotidien. Au quotidien, que ce soit pour nos clients ou ceux qu'on accompagne dans le cadre de l'accompagnement classique d'un dirigeant, parce qu'on fait aussi de l'operating partners, à chaque fois, c'est vraiment une trouille qu'ils ont en permanence, soit de trouver la bonne compétence et ou de pouvoir conserver des bonnes compétences ou les développer. Donc, et c'est ça que le code du travail est bien, et en plus aujourd'hui, le code du travail, le marché du travail, vous m'en donnerez Titus, évolue énormément. On a de plus en plus de freelance, c'est-à-dire que les seniors aujourd'hui, on leur dit t'es gentil mon petit chéri, mais maintenant tu vas monter ta boîte et puis tu vas devenir un fournisseur. Donc on n'a plus le lien de subordination. Du coup, on peut plus se développer comme avant dans l'entreprise. Donc le code du travail commence à être de moins en moins applicable par rapport aux relations final, à savoir le travail humain dans l'entreprise.
Jérôme Laverny, il faut moderniser ce code de travail, le dépoussiérer, enlever quelques pages.
Moderniser,
aussi.
Peut-être assurément changer la philosophie par laquelle il lie employeur et employé. Et encore une fois, moi je veux revenir à ce satané principe de précaution. On ne parle plus des lois là, mais de la réglementation d'une manière générale en fait, qui régit et entoure la vie économique du point de vue de la formation, du développement économique ou de l'emploi. Je prends 2 exemples très concrets. Principe de précaution, c'est dire, luttons contre la discrimination homme-femme, faisons en sorte qu'une offre d'emploi suppose une dénomination au masculin et au féminin. Mon Dieu, franchement, si la discrimination, la lutte contre la discrimination repose sur le fait de marquer plombier, plombière, on est franchement mal barré, parce que la discrimination, elle va se loger sur des choses bien plus graves, bien plus pernicieuses, et c'est se donner bonne conscience à peu de frais que de dictaminer ce genre de choses. Un autre exemple concret. Depuis un certain nombre d'années, on a mis en place des formations réglementaires. J'entends par réglementaire le fait que on ne peut accéder à un métier X ou Y que par le passage incontournable d'une formation avec des modules réglementaires, réglementés. Bon, C'est très bien, un principe de précaution d'entourer de tout un tas d'aspects de sécurité, d'hygiène ou de je ne sais quoi. Mais sauf que tout d'un coup, on a rendu drôlement plus compliqué le recrutement. Là où on entend des patrons dire « mais moi j'aimerais bien former la personne, donnez-moi une personne débutante et je vais la former ». C'est-à-dire qu'on a été complètement aveugle et sourd à cette aspiration d'un certain nombre d'entreprises, et j'entends pas simplement de petites entreprises. Des grandes entreprises ont pris d'abord le à bras-le-corps le problème. Carglass, par exemple, qui a créé son propre organisme de formation en disant « bon, ok, là, ça ne répond plus à notre propre demande, on va prendre le taureau par les cornes et on va faire notre propre formation sauce maison ». Certaines autres entreprises ont voulu faire cette même démarche et ont été alors là, pour le coup, bloquées par tout un tas de réglementations en termes d'organismes de formation. Donc voilà, ces réglementations ont parfois oublié la vie réelle, la vie pratique, la vie quotidienne des uns et des autres, des employés, des employeurs. Le discours notamment d'un employeur qui dit « j'aimerais former en fait quelqu'un de débutant, laissez-le-moi », mais qui ne peut pas parce que tout d'un coup, il faut la réglementation qui va bien. Et encore une fois, je reviens à cette histoire de discrimination. Loi d'affichage, vous disiez des lois contradictoires, il y a des lois d'affichage. Il faut, quand on publie une offre d'emploi, dire plombier, plombière. Mais que dire un employeur qui dit « au fait, moi je prends pas de femme au téléphone ?» Oui, alors on peut essayer de le coincer, d'accord, mais c'est dans la réalité. Donc c'est se donner bonne conscience, encore une fois, à peu de frais, cette histoire de masculin, féminin. Et je pourrais en prendre d'autres exemples et on y consacrera prochainement une émission.
Milos Milogic, combien représente la part d'administratif dans une journée, par exemple ?
Oh, bien trois quarts de la journée.
Trois quarts de la journée.
Entre la partie administrative, entre la partie commerciale, je dirais purement paperasse, comme on peut l'appeler.
D'accord, donc vous avez un quart de la journée pour finalement faire votre métier, c'est ce que nous dit Milos, Emmanuel Lafont.
Oui, tout à fait. Milos, on va se rappeler parce que j'ai une solution pour toi. Mais oui, effectivement, on a à peine un quart de la journée au final pour faire notre vrai boulot. Et ça, c'est super frustrant quand on a envie d'entreprendre.
Jérôme. Alors, moi j'aimerais qu'un jour je lance un appel à un journaliste d'investigation, j'aimerais qu'il y ait un audit sur les dispositifs d'aide à la création d'entreprise, de chargés de mission d'entreprise qui pullulent dans tout un tas de départements, de dispositifs et d'argent mobilisés pour dire aux gens, allez, créez votre entreprise. Oui, bon, très bien. D'ailleurs, par des chargés de mission parfois qui n'ont jamais créé une seule entreprise de leur vie. Bon, par contre, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'aider des Minos dans leur partie administrative. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohorte de professionnels qui viennent en appui administratif des petites et moyennes entreprises, sachant là où le bât blesse, dans tout un tas de démarches qui puissent leur permettre...
C'est ce que fait Emmanuel Lafont,
ça s'appelle Sparterage Group. Vous allez sur le site, on va vous expliquer comment ça marche.
J'entends de façon gracieuse. voilà.
Ouais. C'est pas très cher. Voilà. Bon, je te jure, c'est bien. Pas très cher.
Non, mais c'est vrai, Jérôme Lavergne a raison. Le gouvernement devrait mettre en place effectivement des structures pour aider et accompagner au quotidien les petites entreprises.
D'ailleurs, excusez-moi, pour finir sur le propos, juste deux secondes. Des chargés de mission création d'entreprise, des chargés de mission vie d'entreprise et des chargés de mission fermeture d'entreprise. Parce que quand quelqu'un doit fermer son entreprise, alors là, croyez-moi, qu'il est seul et bien seul.
Alors là, pour témoigner sur la fermeture d'entreprise, aux chambres de commerce et industrie, il y a des partenariats avec des syndicats professionnels. Vous avez des structures pour accompagner le dirigeant, mais c'est pour prévenir. Après, effectivement, si vous commencez à rentrer dans le détail de la liquidation d'entreprise ou de l'entreprise en difficulté, là, effectivement, les moments de solitude,
ferme une entreprise, il doit manger. Il ne faut pas oublier qu'il doit manger. Or, on a des chefs d'entreprise qui sont dans l'oubli, qui persévèrent à vouloir faire vivre parce que c'est leur dernier radeau pour pouvoir survivre, alors qu'ils devraient arrêter, mais qu'ils ne peuvent pas, ne serait-ce qu'en termes de temps, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas touché de chômage, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir gérer de l'administratif. C'est à ce moment-là qu'il faudrait les aider.
C'est une décision de gestion d'arrêter une entreprise et c'est pas une petite. Il faut vraiment beaucoup de maturité et anticiper au maximum.
Emmanuel Lafont, qu'on comprenne bien comment vous aidez les patrons toute cette paperasse, toute cette démarche administrative. Comment vous les aidez à consacrer plus de temps à leur entreprise, à leur métier ?
Le souci, plutôt que... le souci pour un patron, il y a ce qu'il sait, qui sait, il y a ce qu'il sait, qui sait pas, et il y a ce qu'il sait pas, ce qu'il sait, qu'il ne sait pas. Et ça, c'est surtout une zone de risque terrible. Donc nous, en fait, comment on fonctionne, c'est simple, c'est un ancien patron, c'est souvent des anciens clients à nous, qui accompagnent des dirigeants ou des entrepreneurs sur leur quotidien, et derrière, on va créer, préparer une équipe d'experts qui va pouvoir travailler au besoin, parce que l'air de rien, ils ont pas beaucoup de temps, ils ont pas beaucoup d'argent, donc il faut qu'on leur fasse économiser du temps et de l'argent sur des sujets, des problématiques. Alors si on prend de l'ARH, bah, ça peut être effectivement un jour par semaine ou un jour par mois, et puis peut-être qu'en administratif, eh ben, on va prendre une office manager qui va travailler effectivement un jour par semaine pour eux, et comme ça on va les sécuriser, surtout on va leur dégager du temps pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment.
Milos Milogic, pour qu'on comprenne bien votre situation, est-ce que vous serez prêt par exemple, tiens, voilà, aujourd'hui, à mettre un petit peu d'argent dans une société comme celle d'Emmanuel Lafond, Sparterage, pour vous aider au quotidien avec toute cette paperasse administrative? Et pour vous donner un petit peu de temps?
Encore une fois, ça dépend du montant.
T'inquiète
pas. Une petite entreprise ne peut pas non plus investir des sommes conséquentes dans.
Non, mais je veux dire, même si la somme n'est pas conséquente, vous seriez prêt à faire ce sacrifice et à investir vous concentrer plus sur le domaine de votre entreprise?
Ah oui, tout à fait.
Jérôme Lavergne, pour conclure.
Philippe, posons la question autrement. Milos Milogic, est-ce que vous seriez prêt à recruter quelqu'un pour la partie administrative?
Eh oui.
Oui, à condition donc, que cette personne-là peut être polyvalente.
Et oui, que ça coûte pas trop cher. Donc, à bon entendeur, salut, et de tous ces gouvernements qui ne mesurent pas combien de toutes petites entreprises auraient un vivier de création d'emplois absolument colossal, à raison d'avoir des aides leur permettant de mettre en place ce vivier, de le rendre vivace.
Allez, merci à vous. Merci Milos Milogic d'avoir participé au Vrai Voix de l'Emploi ce soir. Milos Milogic, patron d'une petite entreprise du bâtiment, qui a témoigné ce soir et on le remercie. On va revenir dans quelques instants et notre question dans les Vraies Voix de l'Emploi, votre avis compte, vous le savez, c'est pour ça qu'on vous pose régulièrement les questions que l'on se pose sur le compte Twitter ou le compte Facebook de Sud Radio. Le code du travail pèse-t-il trop lourd? Et c'est le oui qui l'emporte, qui augmente un petit peu, en passe de 63 à 67% de nos auditeurs qui répondent par la positive. On va se retrouver donc dans une poignée de secondes pour la dernière partie de cette émission et la conclusion. Puis je vous rappelle le numéro du standard de Sud Radio pour intervenir à l'antenne, 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Et le mardi, c'est l'emploi jusqu'à 20h, dernière partie sur Sud Radio. Et cette question que l'on vous pose, le code du travail pèse-t-il trop lourd? Oui ou non? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On en débat depuis une petite heure maintenant, toujours avec nous, Jérôme Lavergne, directeur du réseau national Mission Emploi. Emmanuel Lafond, qui n'a pas bougé, directeur du cabinet de recrutement SparterH, directeur et fondateur d'ailleurs. Et puis on accueille tout de suite Marie-Christine qui a composé le 0826 300 300. Marie-Christine d'Eure-et-Loir qu'on va retrouver dans quelques instants. Bonsoir Jean-Marc Thibault.
Bonjour, bonsoir.
Jean-Marc Thibault, donc chef d'entreprise dans la sûreté aéroportuaire. Jean-Marc Thibault, le code du travail pour vous, ça a été un obstacle?
Ça a été un obstacle, notamment pour le recrutement, pour le suivi de l'entreprise, oui.
Dans quel sens? C'est-à-dire que...
Alors, il faut savoir que surtout dans mon domaine sur lequel on a beaucoup d'exigences, il est évident qu'effectivement, ça a été une lourdeur non seulement pour le recrutement et pour le suivi, on va dire, administratif de la société.
Actuellement, vous avez toujours votre entreprise, Jean-Marc?
Alors, il est vrai que récemment, ma société a subi une fermeture administrative, non seulement suite à certaines fermetures de compagnies aériennes, que je ne citerai pas, et les grèves n'ont pas arrangé non plus notre société. Voilà. Donc, trop d'absentéisme, donc on n'a pas pu redresser notre société, malheureusement.
Qu'en est-il des salariés qui vous accompagnent?
Alors, j'ai préféré effectivement peut-être mettre un terme, peut-être. Alors, c'est pas une décision de moi-même, puisque c'est une fermeture administrative. Il est vrai que c'était quand même préférable d'en arriver là, étant donné que c'était une possibilité de faire une sauvegarde des emplois. Alors, il est vrai qu'en France, quand on est patron, on perd tout et on n'a aucune aide. Donc, ça, c'est un petit peu dommage.
Emmanuel Lafond,
Il y a une assurance qui existe, mais en fait, quand on monte l'entreprise, on n'y pense pas et souvent on n'est pas informé parce que on a tellement d'informations et on découvre qu'il y a quelque chose qui existe, mais c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'on a déjà mangé la moitié du capital et dans ce cas-là, on sort des clous par rapport à l'assurance.
C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que d'après mes renseignements, il fallait 3 ans d'existence.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est arrivé à 10 ans.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, quand ça ne va plus, il y a beaucoup de lois qui accompagnent les salariés, mais rien pour les patrons. Absolument rien.
Ça, c'est vrai. C'est vrai, que je me sens un petit peu abandonné après 10 ans, puisque j'ai démarré ma société 10 ans et tout seul sans aucune aide. J'ai eu jusqu'à plus de 100 employés, et donc notamment toutes les plus grosses compagnies aériennes. Mais c'est vrai que je regrette, et effectivement, vous avez raison, je n'ai jamais eu des formations quand j'ai créé ma société concernant ces aides-là, enfin en tout cas ces assurances.
Jérôme Laverny.
Monsieur Thibault a répondu aux questions que je souhaitais lui poser. Combien de salariés il avait eu, combien d'années avait existé sa société? J'en ai une dernière à lui poser. Votre chiffre d'affaires de la dernière année notamment, ou de l'avant-dernière, j'en sais rien.
Alors au plus haut, on a frôlé quasiment les 3 millions d'euros, à peu près entre 2,6 millions et 2,7 millions, on va dire, peut-être.
Vous voyez combien la chose est complètement paradoxale. On agit des illusions devant des gens qui sont peut-être créateurs d'entreprises, Et croyez-moi que moi j'ai vu des dispositifs qui sont juste hallucinants. Et là, on a quelqu'un qui a créé une centaine d'emplois, et peut-être davantage sur le flot continu de ces 10 années d'activité. 10 années d'activité, en ayant un chiffre d'affaires relativement important, et qui, au moment de fermer son entreprise, n'a pas d'accompagnement. C'est juste dingue. C'est juste dingue pour lui et pour sa famille. Hein, parce que créer une entreprise, c'est pas le créer tout seul dans son coin, rentrer le soir et hop, oublier tout, c'est ramener aussi ses soucis financiers et autres, mais aussi pour les salariés. Une entreprise qui a des difficultés mériterait un appui, non pas seulement pour l'employeur, pour le chef d'entreprise, mais également pour les salariés, de telle sorte à pouvoir garantir peut-être une pérennité. En tout cas, veiller voir et réfléchir dans quelle mesure on pourrait, à défaut de créer des entreprises imaginaires, eh bien accompagner une entreprise qui existe déjà de façon sonnante et trébuchante. On voit des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi où, alors je serais disgracieux avec personne, mais où on entraîne les gens à des entreprises éphémères, des entreprises imaginaires. C'est super sympa. Moi, j'adore le théâtre, mais il faut laisser le théâtre là où il est, le soir et le week-end.
Et oui. Le code du travail pèse-t-il trop lourd? C'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis au 0826-300-300, numéro qu'a composé Marie-Christine, qui nous appelle d'Eure-et-Loir. Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonsoir. Effectivement, je vous appelle... j'ai deux casquettes, puisque je suis chef d'entreprise et également conseiller prud'homal. Et c'est plutôt en qualité de conseiller prud'homal que je souhaiterais répondre. Bon, effectivement, mais je crois que si vous posez la question, vous allez avoir pratiquement 100% de réponses positives.
Là, c'est 63%.
Seulement,
oui, sur le compte Twitter de Sud Radio.
Il y en a beaucoup qui ne lisent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le code du travail, tout simplement. C'est de la folie furieuse. On a beaucoup de mal à s'y retrouver, effectivement. Je voulais aussi, j'ai entendu tout à l'heure une réflexion comme quoi pour un salarié, aller au prud'homme, c'était coûteux. Non. D'abord parce que, l'avocat n'est pas obligatoire, vous me direz oui, mais sinon il ne va pas s'en sortir. Mais il y a aussi les délégués syndicaux qui ont la possibilité de défendre les salariés de façon complètement gratuite au prud'homme. Et puis sinon, mais écoutez, effectivement, pour nous conseillers, on préfère quand il y a des avocats qui ont préparé les dossiers, parce que ça nous est beaucoup plus facile pour pouvoir avoir une décision la plus objective et la plus juste possible. Mais quand le dossier, comme ça a été évoqué tout à l'heure, est un petit peu compliqué, il y a quand même la ressource du départage qui nous permet de faire appel à un magistrat professionnel qui, lui ou elle d'ailleurs, pourra avoir un avis éclairé sur un dossier qui nous paraît à nous conseiller un petit peu abscons.
Voilà. Alors, je vais faire réagir tout de suite Emmanuel Lafond sur ce que vous venez de dire, Marie-Christine, Emmanuel Lafond.
Oui, c'est impressionnant et je vous remercie de votre témoignage. C'est vrai que c'est pas l'expression, mais c'est du délire d'avoir un conseiller prud'homal qui dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué ce truc-là avec le code du travail et vous vous rendez même pas compte, mais évidemment, on doit prendre des décisions. Heureusement qu'on fait appel au départage pour. Ça veut quand même dire que quelque part, la règle, elle est pas simple et que d'avoir des gens qui n'ont pas recours à un professionnel du droit pour rester en justice, je trouve ça toujours une aberration parce que, du coup, effectivement, ça va encombrer les tribunaux pour rien, ça va conduire à des désillusions, forcément d'un côté comme de l'autre, et à la fin, c'est du n'importe quoi.
Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite, les désillusions, le départage, c'est, moi personnellement, et je le vois avec mes confrères, on essaye toujours de ne pas arriver à cette solution ultime, d'abord parce que moi je considère que c'est une forme d'échec, c'est vraiment dans un cas extrême. Mais quand on passe 3 jours à essayer de comprendre un dossier parce que l'avocat a été tellement mauvais qu'on ne comprend rien au dossier et qu'on ne peut pas s'appuyer sur les écrits et les dires de l'avocat puisque c'est une procédure orale, c'est quand même difficile. Alors, je voulais également parler du bureau de conciliation. Alors, il peut y avoir effectivement des conseillers qui considèrent que c'est un passage de fonctionnaire, j'allais dire, dans son acceptation la plus péjorative et qui n'a rien à faire, ce qui est faux. Moi, je connais, et personnellement, j'essaye toujours de véritablement faire une conciliation. Mmh. Maintenant, il y a une procédure qui permet aussi de passer au bureau de jugement sans passer par la case conseil de conciliation. Donc, et puis, en matière de délai, c'est complètement aberrant, pour 2 raisons. C'est que maintenant, on s'aperçoit que pour un oui, pour un non, quelquefois, c'est extrêmement...
Les délais sont très longs, c'est ce que nous avait dit d'ailleurs Pierre Farge.
Souvent même, de plus en plus, on va au prud'homme pour tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
On fait perdre du temps à tout le monde. Moi, je lis des choses, mais aberrantes. Mmh. On se demande même comment les gens osent se présenter avec une demande aussi, aussi dingue.
Merci Marie-Christine, merci d'avoir composé. Est-ce que je vais donner la parole, excusez-moi Marie-Christine, à Jérôme Laverny pour conclure, parce qu'il nous reste très peu de temps. Merci pour votre témoignage, Jérôme Laverny.
En conclusion, il y a le poids physique du Code du travail. Il s'est considérablement allégé par la mise en place du site internet par le gouvernement. Il y a le poids symbolique, tout porte à croire par les différents témoignages et le sondage de nos auditeurs qu'il reste encore véritablement très très pesant. Et puis il y a le poids tragique, celui de la réalité quotidienne, le poids pratique. Et là, manifestement, il y aurait des pistes très intéressantes à explorer pour pouvoir simplifier la vie et des employeurs et des employés.
Emmanuel Lafond, quelques mots pour conclure.
Voilà, très très vite. Alors pour les salariés non plus, c'est pas simple le code du travail parce qu'on a beaucoup de questions de salariés qui s'adressent à nos DRH en disant mais ça j'ai le droit, j'ai pas le droit, est-ce que je peux? Et deux, pour le chef d'entreprise qui est intervenu, appelle-moi, voilà, il y a plein de choses, on va rebondir, tu vas voir. Et,
oui, Milos, qui était là en première partie.
Non, Monsieur Poutou. Appelle-moi, Jean-Marc Thibault, voilà. On va rebondir ensemble et tu vois, on va faire des belles choses.
Voilà. Monsieur Poutou risque.
Oui, Monsieur Poutou, non.
Pas vous appeler.
Non, il n'est pas là ce soir, Monsieur Poutou. Allez, merci à vous. Score final sur le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas bougé. Toujours 65% de nos auditeurs qui trouvent que le code du travail pèse beaucoup trop lourd. Merci à vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci Emmanuel Lafond.
Merci à vous.
Et donc, directeur du cabinet de recrutement et fondateur, on le disait, Sparterage, dans un instant, le Loft Music avec Yvan Cujus. Yvan Cujus qui reçoit ce soir Julien Lepers. I'm feeling